Ça va? J'enlève tout ça? Je l'enlève? J'enlève ça? OK. C'est bon? OK, alors bonjour tout le monde. C'est ma dernière prédication pour l'été. Jacques, notre pasteur, va être de retour dimanche prochain. Alors en attendant, priez pour lui. Que se reposer, être restauré et revenir en pleine forme. Alors, on va prier. Seigneur, ce matin, on veut réfléchir ensemble sur des grandes vérités. Et que ces vérités-là, Seigneur, puissent avoir une influence et, dans nos vies, nous pousser à plus. Mais vraiment, Jésus, c'est toi, c'est vers toi qu'on veut aller avec sur lesquels nous allons réfléchir ce matin. En Jésus-Christ, je te prie. Amen. Alors, tournez vos Bibles dans le livre des Proverbes, chapitre 16 et au verset 20. Ça va être un petit peu un autre style de prédication ce matin. Ce ne sera pas un exposé comme tel ou un thème, ça va être des réflexions. Cinq réflexions de base. J'ai amené des petites choses pour les enfants. Ils vont participer ce matin. Mon ami Caleb, tu vas me donner un coup de main ce matin? Oh oui. Il n'a pas l'air convaincu, mais c'est pas grave. Alors, Proverbe 16 au verset 20. Alors, je ne sais pas dans vos versions comment ça se lit, mais dans la mienne, ça se lit ainsi. « Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. » Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Alors, si vous regardez en derrière moi, vous avez une main. Et première chose, on dit qu'une image vaut mille mots. Dans cette image-là, moi, la chose qui me frappe le plus, c'est les cinq doigts. Alors, j'ai utilisé cette image-là parce que ce matin, on va avoir cinq réflexions. Alors, ça va peut-être vous aider à vous en rappeler après la prédication de ce matin. Alors, on va réfléchir sur un, la vie est courte. Deux, l'éternité est longue. Trois, le péché. C'est terrible. 4. Si le péché est terrible, c'est quoi son remède? Et 5. Malheureusement, ce ne sera pas le sujet le plus joyeux, mais l'enfer est certain. Il faut quand même en parler. Alors, la première chose que je veux réfléchir avec vous, c'est la vie est courte. En passant, c'était la fête de ma femme hier, alors. Alors une autre année terminée, je me souviens, quand elle avait à peu près... Quand elle avait à peu près 71 ans, j'ai dit... Non, quand elle avait environ 50 ans ou 52 ans, j'ai dit, là, Ginette, arrête. Tu bouges plus. Mais ça a l'air que non. Ça a avancé, ça a avancé. Alors, la vie est courte. Tournez vos Bibles dans Jacques, au chapitre 4, verset 14. Jacques nous le confirme. Jacques 4, verset 14. Vous ne savez pas ce que votre vie sera demain. Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Ma mère va avoir 93 ans à l'automne, puis je pense qu'à chaque fois que j'y parle, elle n'a aucune idée où ce que le temps a passé. Elle n'en revient pas comment les choses... Et là, j'ai 93 ans, puis c'est comme si, dans ma tête, là, ça s'est passé d'un clin d'œil. Et peut-être que quelques-uns d'entre vous, vous posez la même question. Mon fils hier, David, qui s'en retourne à Paris cet après-midi, il me disait que quand il est allé à Montréal, ça lui a rappelé plein de souvenirs. Et pourtant, à l'âge qu'il a, il est jeune encore, là. Mais il dit à Montréal, c'est comme si j'avais plein de souvenirs. Alors, des fois, on entend ça, les gens, les jeunes, 30 ans, dans mon temps. Mais alors, ma mère est comme ça, elle. 93 ans, puis elle se demande où est-ce que le temps a passé. Alors, il n'y a personne qui est arrivé dans le monde avec une garantie de vie, un nombre d'années qu'on va avoir. La vie est courte, et même si ma mère devait vivre 100 ans, et je dis toujours à ma mère, tu me diras que tu es vieille quand tu auras passé les 100 ans. Même si elle vivait 100 ans, c'est court par rapport à l'éternité. Vous comprenez? Et ça me rappelle une histoire. J'étais à une fête à Drummondville. Il y avait un jeune homme là. Et les portes se sont ouvertes. On discutait ensemble de choses et d'autres. Et de Dieu. Et le péché. Ça, ça n'a pas bien passé parce qu'on était au Québec, mais je ne suis pas unique au Québec, on n'aime pas entendre ce mot-là. Alors, puis aussi l'éternité. Alors, je lui pose la question, je lui dis, combien d'années il te reste à vivre? Il me regarde, il était un peu sur un choc. Bien, il dit, écoute, j'ai 30 ans, il devrait m'en rester environ 50. Je lui dis, comment tu peux être sûr de ça? Il dit, je ne suis pas certain, mais les statistiques sont en ma faveur. Je dis, c'est un bon point. 6 mois plus tard, on recevait un téléphone, il est mort. Dans une courbe, en accident d'automobile. Au moment où je lui ai parlé, où je l'ai mis face à un Dieu saint, d'un côté, et j'ai essayé de le mettre face à son péché pour l'aider à réaliser qu'il n'était pas prêt à rencontrer un Dieu saint. Puis je lui ai présenté la croix comme le moyen d'être pardonné et justifié devant Dieu. Je voyais bien dans ses yeux là, qu'il me disait, j'ai 50 ans devant moi. Il m'a dit, je vais avoir bien du temps pour penser à ça. J'ai dit, vraiment? Il ne savait pas, mais il n'en restait que 6 mois. Alors, la vie est courte. Comment est-ce qu'il est mort exactement? Qu'est-ce qui est arrivé? Je sais comment est-ce qu'il est mort, mais qu'est-ce qui est arrivé dans les derniers moments, au moment où il a pris la courbe, puis il a senti qu'il perdait le contrôle, le temps du coma, je ne sais pas ce qui s'est passé en dedans de lui. Mais je sais une chose, c'est qu'il est inexcusable. Il a entendu la vérité. Quand l'occasion se présente, mes amis, vous ne savez pas, la personne à qui vous parlez, combien de temps encore? Ce n'est pas une question de se stresser avec tout le monde avec qui on rencontre, mais c'est une question d'être des chrétiens responsables. Et quand vous témoignez, témoignez avec clarté. Alors, dans son cas, lui, il ne restait que 6 mois. Il a vécu 30 ans et quelques mois. Ça m'amène au prochain sujet. L'éternité est longue. Si la vie est courte, l'éternité est très, très longue. Encore une fois, ma tante, une de mes tantes qui est morte, ma sœur me disait, elle dit, Sylvain, elle dit, ça m'a appris une leçon, la mort de ma tante. Je dis, ah oui, je dis, c'est quoi? Elle dit, il faut profiter de la vie. Je dis, t'es pas sérieuse. Je dis, c'est tout ce que tu as appris. Ma tante est morte. Toi, ça te dit, il faut profiter de la vie. Je dis, Carole, je dis, au contraire, ça devrait t'amener à dire, l'éternité s'en vient et où je vais passer l'éternité? Ça serait une façon beaucoup plus sage de voir les choses. C'est dur à penser l'éternité, hein? Je sais pas, nous, on vit en termes, bon, il y a un début de journée, une fin de journée, un début de semaine, fin de semaine, début de mois, début d'année, fin d'année, toujours, tout ça. Mais l'éternité, c'est que ça finira. Jamais, 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 jamais. C'est une pensée qui est étourdissante. Alors, j'ai pensé à 2 illustrations qui pourraient peut-être vous aider à saisir un petit peu c'est quoi l'éternité. Quand on est allé à l'île du Prince-Édouard, on marchait sur une plage, Marie-Michel et moi. T'en souviens, Marie-Michel? Oui. On marchait sur la plage. Quel âge t'avais? tu avais 10 ans. Alors, ça fait quelques lunes. On marchait sur la plage, puis j'ai dit à Marie-Michel, j'ai dit, donne-moi ta main. Et j'ai pris un grain de sable, puis je l'ai mis dans sa main. J'ai dit, Marie-Michel, j'ai dit, ça, c'est ta vie. Puis la plage, c'est l'éternité. Le contraste est énorme. Caleb, viens ici. Alors, ça, c'est un pot de grains de sable. Et j'en ai mis 5. Alors, prends, tu vois-tu les 5 grains de sable sur la feuille ici, qui sont dans des cercles? Prends chaque grain, mets-les dans le pot là-bas. Non, 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 le grain ici sur le papier, je t'ai déjà aidé. Prends-les, ou mets de l'eau sur ton... Allez, un à la fois, juste un à la fois, on va étirer ça un peu. Un grain de sable. Deux grains de sable. Trois grains de sable. Quatre grains de sable. Merci, Caleb. Alors, si on demandait à Caleb de vider le pot, un grain à la fois, quand il aurait terminé, l'éternité ferait juste de commencer. C'est long, hein? Tu peux y t'asseoir, merci Caleb. Imaginez une plage, c'est la même chose. J'ai une autre illustration. Si je vous donnais à chacun un compte-goutte avec une bonne paire de souliers, puis je vous disais, voici votre mission. Tout le monde avec votre compte-goutte et vos bons souliers, votre sac à dos, on va marcher d'ici. On va aller jusqu'à l'océan Atlantique. On va siphonner une goutte. Puis on va marcher tous ensemble jusqu'à l'océan Pacifique. On va mettre la goutte de l'océan Atlantique dans l'océan Pacifique. Ploups! On remarche de l'océan Pacifique jusqu'à l'océan Atlantique. On prend une goutte. On remarche de l'océan Atlantique jusqu'à l'océan et etc., etc., etc. Quand l'océan Pacifique serait vide, l'éternité fait juste de commencer. C'est long, l'éternité. Avez-vous déjà pensé à ça? Je ne sais pas si ça vous aide. Tournez vos Bibles dans Ecclésiaste, chapitre 3, verset 11. Alors, Ecclésiaste 3, verset 11. Gilles, je suis désolé, je ne te l'ai pas donné cette référence-là. Zut, oui. Alors, Ecclésiaste 3, verset 11, on lit, « Il a mis la pensée de l'éternité dans le cœur de l'homme. » C'est pas beau, ça, un peu? C'est merveilleux. Dieu nous a mis la pensée de l'éternité dans le cœur. On a une idée qu'on est éternel. Un des plus grands évangélistes en Australie, savez-vous c'était quoi son message? Il était en Australie, et puis un vieux monsieur, il ramassait qui pouvait, puis il disait, hey, j'ai juste une chose à dire. Tu vas vivre éternellement, soit au ciel, soit en enfer. Pense à ça. Et des années plus tard, il y a eu une conférence de missionnaires en Angleterre. Et une des questions, un conférencier a dit, racontez-moi donc votre témoignage, où est-ce que ça a commencé, que vous avez commencé à réfléchir. Et il y en a un dans la salle, il dit, moi, ça a commencé, j'étais en Australie. Puis il y a un bonhomme qui m'a ramassé par le bras, puis il m'a dit, hey, j'ai quelque chose à te dire, tu vas vivre éternellement. Soit au ciel, soit en enfer, pense à ça. Puis il dit ça, ça m'a troublé, ça m'a amené à la croix. Il y a un autre missionnaire dans la salle qui lève la main, il dit, ton bonhomme, là, il dit, sa barbe, là, était blanche, puis il avait l'air de ça, ça. Il dit, oui, il dit, c'est la même chose pour moi. Puis dans la salle, il y en a eu plusieurs qui ont levé la main, puis ils ont dit, J'ai-tu dit quelque chose? OK. C'est... Alors, des fois, ça ne prend pas grand-chose qu'on peut dire aux gens pour les amener à cliquer, à réfléchir, et graduellement, ce message-là, que vous avez, ça ne prend pas beaucoup de courage de dire à quelqu'un, « Écoute, tu vas vivre éternellement. Soit au ciel, soit en enfer, pense à ça. » Alors, l'éternité, c'est long. Alors, ce matin, on a réfléchi sur deux choses jusqu'à là. La vie est courte et l'éternité est longue. Le troisième point sur lequel j'aimerais réfléchir ce matin avec vous, c'est le péché, c'est sérieux et ça existe. Alors, ce matin, ce que je veux faire, c'est qu'on n'aura pas le temps de faire toute une étude approfondie sur le péché. Ceux qui veulent voir, qui veulent l'étudier par vous autres, même l'origine du péché, ça n'a pas commencé sur la terre, ça a commencé dans les cieux avec Satan, Lucifer. Vous pouvez lire Ésaïe 14, Ézéchiel 28. Ce péché-là de rébellion dans le ciel est descendu dans le jardin d'Éden. Alors, vous pouvez aller dans Genèse 3, regardez ce qui s'est passé avec Adam et Ève. Et l'existence du péché, ça, on ne peut pas le nier. On le voit autour de nous. Télévision, Internet, journaux, etc., c'est présent. On le voit, moi j'étais enseignant dans les cours d'école, c'était extrêmement présent, on le voit dans les familles. Un peu partout, on voit l'existence du péché. Mais on le voit surtout en nous. On le voit en nous, le péché. La Bible est tellement claire, elle dit, « Car il n'y a pas de distinction, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Et le péché, c'est premièrement la rébellion envers Dieu, qui se manifeste par la transgression de sa loi à lui. C'est, la Bible nous dit aussi que c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Péché, c'est manquer la cible, qu'on dit. Alors, Dieu nous a donné le standard moral. Quand on le manque, c'est péché. On en a qu'à donner quelques-uns. Moi, personnellement, quand j'évangélise, j'utilise beaucoup la loi juste pour essayer de stimuler, de démontrer à la personne à qui je parle l'état de son péché. Si on pose des questions à un jeune, est-ce que tu as toujours honoré tes parents? Une autre question, tu ne tueras point. Alors, les gens vont dire, oh, moi, je n'ai jamais tué. Mais est-ce que tu es déjà haï? Tu ne commettras point d'adultère. Peut-être pas ouvertement, mais certainement dans ton cœur, que Jésus dit, si tu convoites une femme avec tes yeux ou un homme, tu as commis l'adultère. La loi est un moyen pour nous de comprendre le vol, le mensonge, la convoitise en général. La loi nous pointe vers une meilleure compréhension de notre état de culpabilité, et la loi aussi a ce rôle de nous pointer vers Christ comme moyen de pardon ou d'être pardonné de nos péchés. Et pour plusieurs, l'explication du péché, c'est une grosse blague. Il en rit jusqu'à ce qu'il se ramasse dans un salon funéraire. Là, c'est moins drôle. Parce que dans un salon funéraire, on voit clairement que le salaire du péché, c'est quoi? La mort. C'est l'effet du péché, c'est la mort. Personne n'y échappe et il n'y a personne qui rit dans des salons funéraires. Alors, le péché, c'est quelque chose de terrible et c'est tellement terrible que ça demandait une solution draconienne. Et c'est notre quatrième réflexion ce matin. Alors, j'aimerais vous offrir le remède effectif à 100% pour le péché. C'est Christ. Quand on parle de péché, j'ai dit tantôt, il y a plusieurs réactions que moi, je suis témoin de ça. C'est un, c'est la moquerie. Les consciences endurcies vont se moquer de ça. Deuxièmement, il y en a qui vont se tourner vers la religion pour régler leur question de péché. Les gens qui se tournent vers la religion pour régler le problème de péché, ils font deux erreurs graves. Ils ne comprennent pas comment est-ce que Dieu est saint et en même temps, ils ne comprennent pas comment ils sont pécheurs. Ça, c'est la religion. La religion n'a rien à offrir de satisfaisant concernant le péché. Le catholicisme nous offre que des sacrements. L'islam, j'ai parlé à des musulmans, plusieurs musulmans, et c'est toujours la même solution concernant le péché. Il nous offre le principe de la balance. Ben, si tu fais plus de bien que de mal, alors la balance va tiper sur ton bord, puis tu vas être correct. Mais ma question est toujours la même quand je parle à un musulman ou à qui que ce soit. C'est que ça ne marche pas, ça, dans une cour de justice. Un juge, une personne trouvée coupable d'un viol, et le juge lui dit « Oui, tu as commis le viol et tout ça », puis là, l'avocat lui dit « Oui, mais il a fait tellement de bien. » Ça ne le rend pas innocent de son viol. Le mal doit être adressé. Le bouddhiste, Martin, qui était bouddhiste, qui était ici, vous connaissez, qui est converti, il me disait que la question du péché n'est pas adressée dans le bouddhisme. L'hindouisme et Confucius, je lisais, qu'eux, ils disent que le plus grand problème de l'homme, c'est l'ignorance de sa nature divine. Le plus grand problème de l'homme dans l'hindouisme et selon Confucius, c'est l'ignorance de sa nature divine. Le Dalai Lama n'a pas de solution satisfaisante concernant le péché. Et tantôt, je disais l'hindouisme et Confucius, ça c'est la base de la philosophie en Amérique et probablement en Europe aussi, David, je ne sais pas, là, où l'homme est ignorant de sa nature divine et on veut l'éveiller à sa nature divine. Et on nie l'existence du péché. On s'en moque. Alors, le remède au péché, c'est dans les paroles de Jésus-Christ. Pour celui qui cherche une vraie solution à son problème, là, puis qui lit les paroles de Jésus, « Mon fils, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Ça, c'est les paroles que quelqu'un qui cherche la vérité, c'est doux à son oreille, satisfaisant à son cœur. « Tes péchés sont pardonnés. » Et Paul donne plus de détails dans 2 Corinthiens 5. Il dit, « Celui qui n'a pas connu le péché, c'est-à-dire Jésus-Christ, le seul qui n'a pas connu le péché, Jésus-Christ, Dieu, homme, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Christ a pris mon péché et en échange, il me donne sa justice. C'est un échange. Incroyable. Alors, le remède concernant le péché, c'est une réconciliation avec Dieu par la mort de Jésus-Christ qui a subi les conséquences de mon péché. Et ce pardon et cette réconciliation-là, elle se trouve dans une personne, pas dans une religion. La religion n'a rien à m'offrir. Christ s'est offert à moi. Jésus-Christ a dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Quand même, il serait mort. » Ces paroles-là, il les a dit à Marthe, alors que Lazare était pourrissait dans le tombeau, après 4 jours. Et quand il a dit ces paroles-là à Marthe, il a terminé avec 3 mots. Il a dit à Marthe, « Crois-tu cela? » La question, elle nous est posée ce matin. « Crois-tu cela? » Quand Jésus-Christ s'est dit, « Je suis la résurrection et la vie. » « Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. » Crois-tu cela? C'est à chacun de répondre. Crois-tu cela? Pour ceux qui se tournent vers Jésus-Christ, l'apôtre Jean nous dit ce matin, dans 1 Jean 5, les versets 11 à 13, « Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie est en son Fils, pas dans une religion, pas dans une philosophie ou une idéologie ou quoi que ce soit, pas en moi. Cette vie est en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. » Ça veut dire qu'il est mort. Mort, bien que vivant, mort dans ses péchés. « Cela, je vous l'ai écrit afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Quand on lit un texte comme ça, il faut conclure de quoi aller plus loin et dire « Vous qui croyez au Fils de Dieu, alors qu'advient-il à ceux qui ne croient pas? » Et ça m'amène dans ma dernière réflexion. Pour ceux qui résistent à la bonté de Dieu, qui les poussent à la repentance, pour ceux qui résistent à être honnêtes avec Dieu concernant leur problème majeur, qui est le péché, le virus avec un grand V, ce n'est pas le corona, c'est le péché. Et malheureusement, quand cette histoire de corona va finir, j'ai hâte que ça finisse, le monde a encore le même problème. Ils sont encore à un pas de l'éternité. Dieu, dans sa grâce, vous savez quoi? Plus j'y pense, plus je me dis, c'est vraiment une grâce de Dieu, dans un sens, cette histoire de corona-là, parce que ça amène les gens à réfléchir à leur fragilité, à la mort, et peut-être à poser des questions. Moi, ça m'a donné plusieurs occasions à des gens, à parler avec des gens, à poser des questions aux gens, puis à les amener un pas plus loin. Enlève le corona. T'es aussi à un pas de l'éternité que tu l'étais dans le temps du corona. La mort est encore là. Frappe à ta porte. Alors, j'ai dit tantôt que celui qui ne croit pas ou qui rejette ce que le Saint-Esprit essaie de faire dans leur vie, c'est-à-dire les convaincre de péché, de justice, de jugement, et les tourner vers Christ pour le pardon de nos péchés, qu'est-ce qui reste pour ces gens-là? C'est l'enfer. Que les gens y croient ou y croient pas, ça ne change rien. Allez sur un toit et dites « Vous ne croyez pas à la gravité, puis jetez-vous en bas. » Ça ne va rien changer. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, l'enfer existe. Et ça va être ma dernière réflexion ce matin. Et honnêtement, quand je pense ou je parle au sujet de l'enfer, ça me donne des frissons en dedans. C'est pas quelque chose qu'on prend plaisir à parler. J'aimerais vraiment, dans un sens, qu'il en soit autrement. C'est extrêmement troublant de penser à l'enfer. Parce que c'est long. C'est extrêmement long. Mais si je niais l'existence de l'enfer, je nierais les Écritures. J'annulerais les Écritures, une chose, et je rendrais inutile la crucifixion de Christ. C'est grave. Nier le jugement éternel. C'est extrêmement grave. Même si on est inconfortable, là, vous ne pouvez pas tourner autour de ce sujet-là. Quand on vous pose la question, « Tu ne viens pas me dire que tu crois à l'enfer, toi? » Un chrétien est obligé de dire oui. Et mon rôle à moi, c'est de t'avertir. Fais ce que tu veux avec, c'est ton choix. Notre rôle à nous, c'est de pointer vers Christ et les conséquences. Il y a 27 livres dans le Nouveau Testament. Tout et chacun de ces 27 livres-là mentionne un jugement éternel. On dit qu'environ il y aurait 234 versets ou mentions d'un jugement éternel en tout. 234. C'est comme si aujourd'hui on allait, on partait d'ici, là, on allait en automobile ou en autobus et qu'il y aurait 234 panneaux de signalisation nous disant que dans 100 km, il y a un ravin de 100 mètres et on va tous se tuer. On ignore. On ignore. On ignore. On ignore. On serait insensé de faire ça. Christ en a parlé. Le Nouveau Testament en parle. Quand vous évangélisez, ce n'est pas quelque chose que vous sortez de la bouche à tort et à travers, mais quand vous sentez que c'est le moment, vous le dites. Et vous n'avez pas à vous excuser. Vous le dites d'une façon aimante, gracieuse, sérieuse. Les gens ont besoin de l'entendre. On trouve même cette vérité-là dans l'Ancien Testament à plusieurs occasions. Tournez vos Bibles dans Daniel 2, excuse-moi Gilles, je ne te l'ai pas donné, celle-là non plus. Daniel 12, 2. Ah, je l'ai? OK. Alors, Daniel 12, 2. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. C'est assez clair. D'ailleurs, dans l'Ancien Testament, l'expression « vie éternelle », c'est la première fois qu'on la trouve, c'est dans Daniel 12 au verset 2. L'expression « vie éternelle ». Tantôt, j'ai posé une question, la même question que Jésus a posée à Marthe, que je me suis posée à moi cette semaine quand j'ai préparé ce message-là. C'est comme si je me suis faufilé, puis je me suis mis derrière Marthe quand Jésus lui a posé la question, « Crois-tu cela? » Je me suis laissé poser la question ce matin. Je me suis posé la question, est-ce que j'y crois? Vraiment. Pour quelqu'un qui dit y croire, ça a un effet de changement dans la vie. Ça change notre perspective complètement. Y croire, si c'est seulement comme une sorte d'adhésion intellectuelle qui ne change rien dans la vie, bien, je vous dis une chose, vous demeurez sous le jugement de Dieu. Il n'y a pas de changement. Il doit y avoir une conversion, il doit y avoir des changements dans la vie. Quand je dis « j'y crois », ce n'est pas seulement dans ma tête, mais c'est dans mon cœur et ça descend dans mes pieds. Il doit y avoir des changements dans la vie. Les changements vont varier d'une personne à l'autre. Mais il doit y avoir des changements. Alors, ce matin, Hébreux 3, verset 7 dit, « Aujourd'hui, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Moi, je ne connais pas vos cœurs. Vous ne connaissez pas mon cœur. Mais si ça a résonné de quoi chez vous? La vie est courte. L'éternité est longue. Le péché, c'est sérieux. Le péché est son remède. Et l'enfer existe. Mais dans le remède du péché, on a accès au ciel, hein? Mais l'enfer existe. Alors, moi, je vous en ai donné 5 points à réfléchir. Ce matin, on a lu dans Proverbes, « Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. » Alors, ce matin, on a réfléchi sur 5 choses, 5 doigts de la main. Alors, ça peut vous servir à vous en rappeler. 1, la vie est courte. Deux, l'éternité est longue. Trois, le péché, c'est terrible. Quatre, il y a un remède. Le ciel est à notre disposition. Celui qui entend sa voix n'endurcit pas son cœur. Viens à Christ, confesse ses péchés. Et cinq, malheureusement, on n'a pas le choix. L'enfer est certain, l'enfer existe. Alors, c'était mes cinq réflexions pour vous ce matin. Prions. Seigneur, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Ce matin, on a réfléchi sur cinq choses tellement importantes de base. Et ma prière ce matin, c'est que ces cinq points-là, ça devienne de plus en plus clair dans nos têtes et peut-être que ça puisse nous servir quand on évangélise. Et peut-être que ce matin, ça a servi à quelqu'un qui n'a jamais été confronté sérieusement face à son péché et face à son éternité. Et qui n'a jamais entendu cette question-là, « Crois-tu cela? » Et si c'est le cas de quelqu'un ici ce matin, je te supplie que cette personne-là n'endurcisse pas son cœur, mais plie le genou, se tourne vers la solution que tu as donnée, qui n'est pas la religion, mais qui est en toi, Jésus-Christ. Celui qui a le Fils a la vie. La vie est dans une personne. Et cette personne-là veut venir s'installer en nous par son Esprit Saint et nous transformer pour ta gloire, Jésus, pour notre prochain et aussi pour notre plus grand bonheur. En ton Fils Jésus-Christ, je te prie.